Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Audrey Maubert.
Bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, c'est un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et ce week-end, eh bien, c'est un vent de reprise, de déconfinement qui souffle, levée partielle de restrictions cette semaine. Et il y a l'envie des Français qui réservent pour les vacances d'été et des professionnels du tourisme, de l'hôtellerie, à qui cela donne des perspectives. Un vent aussi de frénésie, la consommation sera-t-elle au rendez-vous? Eh bien, l'IP mise dessus. Maison horlogère, maison française. Son directeur général, Pierre-Alain Bérard, sera avec nous dans un instant. Enfin, un vent d'innovation. Le data scientist du moment, Guillaume Rosier. On parle de Chronodose, on parle de Vitmadose, les essais de Sanofi et les ambitions de la French Tech qui lève des fonds en pagaille. C'est le programme de la France à tout pour réussir. L'étau se desserre donc sur l'activité, réouverture des commerces, des terrasses, couvre-feu décalé. Nouvelle étape de déconfinement, c'était cette semaine. La reprise se dessine pour les secteurs à l'arrêt pendant des mois, notamment pour le groupe Pierre et Vacances. Franck Gervais, son directeur général.
On a fait carton plein pour l'Ascension, ça va être le cas encore pour la Pentecôte. Et donc il y a une vraie envie des Français, des Européens de voyager de nouveau, de passer des week-ends, des moments positifs en famille. Donc on a vu un niveau de réservation vraiment redécoller lors des annonces de déconfinement. Et donc les week-ends de mai sont complets. Et puis on a vu que ça réservait aussi déjà pour les vacances d'été. Ces dernières semaines, on a un niveau de réservation qui a dépassé ce qu'on avait en 2019, un rythme de réservation. Et sur les 5 dernières semaines, donc entre l'avant-confinement et puis le post-confinement, on a fait x4 en rythme de réservation. Donc vraiment, on est sur une pente très 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 ascendante.
Même constat chez Accor, poids lourd du secteur. Maude Bailly, la directrice générale Europe du Sud, essaie cette semaine sur BFM Business.
C'est la fin de longs mois de room service. Et certes, les terrasses sont ouvertes pour les clients extérieurs, mais dans nos hôtels qui rouvrent pleinement, j'ai déjà la quasi-totalité des hôtels qui est ouvert, mais les clients hébergés vont pouvoir bénéficier des restaurants en interne, matin, midi et soir, mais aussi des piscines extérieures, des spas, des salles de réunion, des salles de fitness. On va pouvoir vraiment faire pleinement vivre l'offre d'hôtellerie. Donc oui, ce 19 mai marque pleinement la reprise du secteur. On croit à un rebond solide. On observe des réservations qui repartent en flèche. Dès que les contraintes sanitaires se desserrent, les réservations repartent.
Ouais. Alors, l'Ascension s'est très bien passée.
Oui.
Là, pour la Pentecôte?
Pour la Pentecôte, on va avoir des taux d'occupation de plus de 70%, parfois des hôtels complets, Ajaccio, Biarritz, Deauville, la Normandie, Le Havre, et ça, ça donne envie. Et je viens de faire en effet le tour de pas mal d'équipes dans des hôtels à Paris, de terrasses, mais aussi de restaurants intérieurs qui réouvrent pour les clients hébergés. Les gens sont contents, ils sont enthousiastes.
Il y a donc l'envie, mais cette question toujours, quelle consommation pour la reprise, quelle épargne en somme sera utilisée, fléchée vers la consommation, la réouverture des commerces, c'est aussi l'activité de leurs fournisseurs. Exemple avec le groupe AB InBev, brasseur, leader mondial. C'était dans Commerce 2.0 avec Anissa Sekai.
L'une des difficultés de cette reprise, c'est la gestion des stocks. Certains produits manquent encore le temps de relancer la production. Et pourtant, les fournisseurs s'activent depuis plusieurs mois déjà pour que tout soit prêt dans les cafés et les restaurants. On en parle tout de suite avec Farid Riskala, directeur commercial du groupe AB InBev. Bonjour, le groupe qui produit des bières. Combien d'établissements vous fournissez en France ?
Nos bières aujourd'hui sont présentes dans 40 000 établissements en France qui sont livrés par à peu près 200 distributeurs qui nous soutiennent sur le marché français. Ils livrent parmi autres certaines de nos marques iconiques telles que Leff, Bud, Corona ou Triple Carmélite.
Racontez-nous comment vous avez anticipé cette reprise du côté de la production.
Nos brasseries ont été à l'arrêt pendant plusieurs mois après le deuxième confinement qu'on a vécu. Mais depuis le mois de février, nous avons commencé une montée en charge au niveau de la production dans nos 4 brasseries principales. Et depuis les annonces gouvernementales fin mars, nous avons accéléré ceci afin de garantir que dès la réouverture, nous aurons les produits disponibles chez nos distributeurs, chez nos clients cafés et restaurants et bien sûr pour nos consommateurs.
Alors vous misez sur un retour de la consommation à la normale dès cet été, en tout cas. C'est ce que vous ressentez grâce à la prise de commande des établissements.
Effectivement, aujourd'hui, si on compare cette reprise sur ce mois de mai à celle du mois de juin dernier, on était au mois de juin dernier autour de 50% par rapport à une prise de commande d'une année normale telle que 2019, alors qu'aujourd'hui, sur ce mois de mai, on projette un carnet de commandes qui sera autour des 70-75% par rapport à une année normale comme 2019. De ce fait, on est assez optimiste et on espère que dès cet été, on pourra revenir à un niveau de consommation équivalent à une année normale, avec de belles perspectives jusqu'à la fin de l'année, j'espère.
Merci à vous.
Merci Anissa Sekai, vous avez entendu ces messages d'optimisme, de reprise. On est avec Pierre-Alain Bérard, le directeur général de LIP, maison d'horlogerie, maison française, historique. Alors, est-ce que pour vous, les clients sont au rendez-vous? La consommation va pouvoir repartir, notamment dans votre secteur d'activité?
Pour nous, oui, ces trois derniers jours ont été vraiment, ces deux derniers jours ont été vraiment signes de reprise. La machine se remet en route et ça fait vraiment du bien. Après un mois et demi de nouveau avec une grosse partie de notre personnel au chômage technique.
Pour qu'on se rende compte, au niveau de votre activité en LIP, à l'heure actuelle, ça représente combien de points de vente, combien de boutiques partenaires, pour qu'on ait une idée du volume et de cette reprise éventuelle, de ce rebond éventuel?
Alors, aujourd'hui, en France, donc LIP, c'est 800 points de vente. 800 points de vente qui rouvrent tous en même temps.
Donc ils ont tous rouvert en même temps. Est-ce que vous avez déjà sondé en termes de reprise d'activité? Est-ce que vous savez si par rapport avant le confinement, il y a une activité beaucoup plus importante? Est-ce qu'on retrouve cet effet de rebond net?
Pour l'instant, alors c'est peut-être un peu tôt pour vraiment donner des perspectives d'avenir, mais en tout cas pour l'instant, il y a un rebond net. On reçoit du public qui est vraiment très heureux de pouvoir recirculer dans les centres commerciaux ou en centre-ville.
Mais finalement, on croyait qu'on avait enterré les boutiques physiques. Il y a ce retour, ce besoin de retourner dans les magasins. Est-ce que pour autant, vous n'allez pas mettre de côté les ventes en ligne? Est-ce que ça vous a permis de compenser pendant cette période de fermeture?
Alors, pour ce qui concerne LIP, on a un petit peu compensé les fermetures physiques avec des ventes web, mais on est loin de compenser complètement. La vente physique en horlogerie et également en bijoux, ça reste le plus gros du marché, puisque on est sur un produit coup de cœur, un produit qui s'essaye, et un produit qui s'achète difficilement en ligne.
Ça représente quel pourcentage les ventes en ligne à l'heure actuelle pour votre activité?
Pour nous, les ventes en ligne, c'est entre 25 et 30% de l'activité, oui, pas plus.
Mais finalement, on n'a pas pris ce virage comme on peut le voir d'ores et déjà en Chine, par exemple, où pour ce type de produit, pour l'horlogerie, pour les montres, il y a de plus en plus de ventes en ligne.
Alors, en tout cas, pour nous en Europe, le virage qui a été pris en Asie avec des montres très chères qui sont vendues en ligne, ce virage-là n'a pas encore été opéré. Je me demande même si nous allons le prendre un jour. Il y a quand même une relation particulière avec l'objet qu'on a, nous, en Europe, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en Asie. Donc là, il y a peut-être une différence de consommation profonde.
Des spécificités françaises, et justement on va parler de cette tradition française, cette maison horlogère fondée en 1867, il y a donc cette date qui résonne avec de la tradition. Mais il y a quand même eu, sur cette période, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, des allers-retours jusqu'au rachat de la marque. Là, ça a été finalement une crise de plus à gérer. Vous avez toujours eu les reins assez solides pour vous réinventer?
Oui, alors déjà, il faut remercier, les décisions de nos politiques qui nous ont permis de tenir, surtout avec la mise en place du chômage partiel, puisque sans ça, on, très honnêtement, on n'aurait pas tenu. Après, voilà, LIP, en 150 ans d'histoire, forcément, il y a eu des hauts et des bas. Ça a été une période compliquée de plus à gérer, mais que nous avons traversée sans gros dégâts. Oui.
Vous avez maintenu vos ateliers ouverts, vous êtes à Besançon et c'est là votre marque de fabrique entre guillemets. Vos ateliers de fabrication sont restés ouverts ?
Nos ateliers de fabrication sont restés ouverts. C'était d'ailleurs à peu près la seule chose qui est restée ouverte dans l'entreprise, puisque sur 130 personnes, nous avons mis 80 personnes au chômage technique. Nous avons conservé exclusivement une activité de production pour regarnir nos stocks et justement pour préparer cet après-Covid.
Et justement, est-ce que vous pensez que vous avez trouvé le bon dosage ou ce sont les semaines à venir qui vont vous le montrer ? Comment on gère, on anticipe des stocks quand on ne sait pas du tout comment va se passer la reprise ?
Oui, c'est presque œuvre de magicien. Pour l'instant, on espère ne pas s'être trop trompé. Je dois dire que la reprise est beaucoup plus nette que je ne pensais. Donc, on va peut-être de nouveau se retrouver avec des problèmes de rupture de stock. Mais en tout cas, voilà. Je dirais que ça, c'est des bons problèmes parce qu'on sait les gérer.
Oui, des problèmes de stock peut-être, mais ça veut dire que la marchandise s'est écoulée. Est-ce qu'il y a des problèmes de pièces, des difficultés sur l'approvisionnement ou comme vous êtes tout à fait localisé en France, vous gérez toute cette chaîne de valeur, cette chaîne d'approvisionnement ?
Alors effectivement, par rapport à de nombreux concurrents qui sont en production asiatique, on a beaucoup moins de problèmes de rupture d'approvisionnement. En tout cas sur les pièces détachées qui composent les montres qu'on fabrique, on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. C'est vraiment plus sur notre capacité à produire, sur notre main-d'œuvre qui là n'est pas extensible puisqu'un bon horloger demande entre 2 et 4 ans pour être formé. Donc c'est vrai qu'on peut pas non plus en 15 jours recruter du personnel adapté.
Donc il y a moins cette flexibilité, cette agilité du fait du savoir-faire. Est-ce que de manière générale, et là c'est d'autant plus vrai avec cette crise, il y a une difficulté à trouver la main-d'œuvre formée ?
Alors on a la chance sur le bassin d'emploi de Besançon au niveau de l'horlogerie d'avoir quand même vraiment des formations de qualité. On a longtemps souffert de la concurrence, nous, des grandes manufactures suisses qui recrutaient avec des niveaux de salaire sensiblement plus élevés. Vu que l'horlogerie suisse a quand même beaucoup souffert, beaucoup souffert de la crise du Covid et de la fermeture des marchés asiatiques, pour l'instant, non, on n'a pas trop à souffrir de manque de personnel. Je dirais que c'est encore pas notre plus gros problème.
C'est l'occasion d'asseoir finalement, d'être plus apte à réagir, à rebondir, d'asseoir, je ne sais pas, un rayonnement à l'international ?
Oui, c'est une occasion qu'on va essayer de pas manquer, effectivement. Et puis, c'est aussi l'occasion de montrer qu'on peut faire français, de bonne qualité, à un prix... Tout à fait raisonnable et je pense qu'on a vraiment une carte à jouer, un vrai savoir-faire à présenter au monde.
Avec une part importante aussi où vous misez sur l'innovation et puis vous avez des modèles où vous intégrez, je pense à la Libre Courage, vous intégrez l'échelle cardiaque et respiratoire intégrée. Là aussi, il y a quelque chose à jouer, des spécificités à apporter.
Oui, alors c'est vrai que la Libre Courage a été... notre premier dépôt de brevet depuis le retour de Libre sur ces terres à Besançon. Et je crois que de toute façon, la différenciation doit passer par l'innovation pour nous, industriels français, puisque en termes de prix de revient, de coûts de fabrication, on sera toujours plus cher que nos concurrents asiatiques. Donc notre objectif est de faire mieux avec un prix qui se justifie.
Ça veut dire qu'il va falloir se transformer. On ne peut pas juste, je dirais, très schématiquement donner l'heure. Il faut donner plus.
Il faut donner plus. Il faut donner une émotion. Déjà, ça, c'est très important puisque c'est un produit qu'on porte sur soi. Donc ça, il est primordial de transmettre une émotion et puis donner également une utilité, donner une information précise, fiable. Et voilà, c'est comme ça qu'on se différencie et qu'on gagne.
Bon, les coups de cœur et les bonnes perspectives de Libe. Donc, merci Pierre-Alain Bérard, directeur général de Libe, d'avoir été avec nous dans la France à tout pour réussir aujourd'hui.
Merci à vous.
Les ambitions sont grandes du côté de Sanofi. Par ailleurs, là aussi, il y a de l'innovation et une course à mener. Le laboratoire se relance dans la course au vaccin. Les études de phase 3 vont bientôt démarrer. Un vaccin qui pourrait être utilisé comme dose de rappel déjà, on pense, eh bien, à la fin de l'année. Les détails avec Hélène Cornet.
Largement distancé dans la première course au vaccin, Sanofi se met en ordre de bataille pour la phase de rappel. Le laboratoire estime que son vaccin a encore toute sa place pour lutter contre la pandémie, en tant que troisième dose pour booster les défenses immunitaires face aux variants ou comme simple rappel pour les personnes déjà infectées. C'est vraiment une solution supplémentaire et c'est comme cela que le présente Sanofi. Les atouts mis en avant par le groupe, des conditions de conservation classiques et un prix relativement modéré par rapport à celui de ses concurrents. Des discussions sont en cours avec plusieurs États qui attendaient ces résultats de phase 2 pour actionner les commandes. L'Union européenne, par exemple, en a réservé 300 millions de doses. Un vaccin développé en partenariat avec le britannique GSK. Mais Sanofi explore aussi la technique de l'ARN messager avec une société américaine. Et les premiers résultats, eux, sont attendus au troisième trimestre.
Est difficile de passer... Difficile de passer à côté en ces derniers jours. Il est le data scientist le plus médiatisé désormais, Guillaume Rosier. Eh bien, il était sur BFM Business cette semaine. Vitmados, Crododos, Covid Tracker, c'est lui.
Si on a pu créer Covid Tracker qui permet de suivre l'épidémie et de comprendre comment l'épidémie se développe en France et dans les différents territoires, dans les différentes régions, si on a pu faire Covid Tracker, c'est parce que l'État a publié en open data, donc de manière libre, gratuite, sur Internet, des données très précises, très exhaustives sur l'épidémie, donc des données épidémiques, mais aussi des données sanitaires, donc le nombre de personnes hospitalisées, décédées de la Covid dans le milieu hospitalier, et aujourd'hui des données vaccinales aussi, hein, combien de personnes sont vaccinées dans chaque territoire et dans chaque tranche d'âge. Et donc c'est grâce à cette publication en open data des données par le gouvernement, par l'État, qu'on a pu, nous, faire ces différentes initiatives. Donc ça montre quelque part l'importance dans les prochains mois, dans les prochaines années, d'ouvrir, que l'État ouvre toutes les données qu'ils ont à leur disposition.
L'open data d'un côté, toujours l'innovation dans tous les cas. Et la French Tech lève des fonds en série. Il y a eu ce défilé cette semaine sur les plateaux de BFM Business. Le géant du reconditionné back market, entre autres 276 millions d'euros levés, ce qui en fait la 14e licorne française. Mais des griefs pour Thibaut Hugues de la Rose, qui s'inquiète d'une redevance qui pourrait tuer, selon lui, la filière française.
La taxe de copie privée, c'est une taxe qui existe depuis 20 ans en France sur la vente de produits électriques et électroniques neufs. Donc les smartphones, les tablettes sont assujettis à cette taxe. Et cette taxe, elle est reversée donc à la culture, donc aux ayants droit, aux artistes et tout ça. Et donc elle est déjà collectée une fois quand le produit est vendu neuf. Là, le gouvernement s'apprête à l'appliquer sur les produits reconditionnés, donc une deuxième fois. Et donc ça, c'est assez dramatique pour l'écosystème français, puisque les reconditionneurs français qui sont devant, hein, il faut le souligner, nous on opère dans trois régions dans le monde, en Asie, en Europe et aux US, la filière française avec laquelle Back Market est née, ce réseau de vendeurs et de reconditionneurs français, est devant en termes de process, en termes de qualité. C'est un écosystème qui grandit, qui fleurit et qui est au début de son développement. Et c'est cet écosystème dont on parle aujourd'hui qui est sous une menace de disparaître avec cette taxe, puisqu'ils vont devoir payer et redevoir donc en moyenne 14 euros de plus par produit reconditionné.
C'est pour un téléphone de 64 gigas de mémoire à peu près.
Exactement, un téléphone de 64 gigas aujourd'hui va être assujetti à cette taxe en France si cette loi passe, alors que ça ne sera pas le cas sur un téléphone reconditionné étranger.
Des startups qui profitent à plein de la reprise, avec notamment Anchor Store, plateforme qui met en relation les marques indépendantes et les détaillants. Deux levées de fonds en moins de 5 mois, c'est un très bon rythme. Et il y a d'importantes perspectives, tout autant, son cofondateur Nicolas Cohen.
Anchor Store, ce n'est pas juste une marketplace, c'est une solution globale. On fait de la mise en relation, on aide des boutiques indépendantes à trouver des marques pour leur commerce, mais on fait du financement tous les commerces qui achètent sur Encore Store ont dû payer à 60 jours dès la première commande. Et ensuite, demain, Encore Store, ce sera aussi une solution logistique, puisque c'est une plateforme européenne, et on doit permettre à des boutiques partout en Europe de pouvoir accéder à des marques partout en Europe. Et donc, il y aura aussi une solution logistique pour fluidifier ces transactions. Aujourd'hui, sur Encore Store, on a 50 000 détaillants qui viennent acheter. Mais c'est loin d'être la taille totale du marché. Si on raisonne au niveau européen, il y a plus de 800 000 détaillants en Europe. Il n'y avait pas de solution. Ce qu'on appelle le wholesale, l'industrie du wholesale, donc c'est le commerce de gros, c'est une industrie qui est archaïque, qui est sous-outillée. Il n'y a rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, un indépendant, quand il veut trouver des marques pour son commerce, il n'a pas beaucoup de solutions. Soit il fait les salons professionnels deux fois par an et ils sont fermés depuis quasiment deux ans maintenant. Soit il passe ses soirées sur les réseaux sociaux, sur Instagram et compagnie pour essayer de trouver des marques, et après c'est le parcours du combattant pour contacter la marque, négocier ses prix, obtenir les catalogues et se faire livrer la marchandise.
Les compteurs s'affolent avec cette autre levée de fonds, 80 millions d'euros levés sur fonds de changement d'habitude avec Virtuo. C'est un loueur 100% digital, solution de voiture à la demande. Une clientèle urbaine qui ne possède pas de véhicule. La croissance a résisté, la croissance à deux chiffres même. Karim Kadoura, le cofondateur de Virtuo.
Une année particulière, à plein d'égards, moralement, socialement, physiquement. Et chez nous, on a réussi à tenir. On a cru d'ailleurs, plus 10% la dernière, ce qui fait figure d'exception.
C'est bien plus 10, mais avant vous faisiez plus 100, plus 200.
C'est pas faux, mais les concurrents de la mobilité en règle générale ont souffert, ont dévissé de moins 50, moins 60%. Donc plus 10%, c'est une super performance. Dès que vous levez les restrictions, les gens retrouvent leur liberté, une liberté fondamentale qui est de vouloir se déplacer, généralement se déplacer loin, parce qu'on a été enfermé dans nos villes et on veut se libérer de cette ville. Et donc c'est ce que Virtuo permet, puisqu'on adresse des trajets longs. Nos clients font en moyenne 4 jours de location et 400 km. Donc c'est pour partir loin. Nous on lève 80 millions d'euros, dont 50 millions d'euros d'equity auprès d'investisseurs, dont AXA Venture Partners, et 30 millions d'euros également de lignes de financement pour développer notre flotte. Ces 80 millions, ils nous permettent d'être, de manière très humble, un champion de la mobilité en Europe. On veut accélérer, on a 150 000 clients aujourd'hui, on va en avoir 1 million d'ici à 2025.
French Tech d'un côté, Space Tech, elle est en plein essor alors que l'accès en fait à l'espace se démocratise. Des coûts d'accès plus bas, il y a cette bataille, l'esprit des start-up, la prise de risque. En fait, le spatial se réinvente, le CNES aussi, avec son président, tout nouveau président, Philippe Baptiste.
On a quand même, en particulier au CNES, une tradition de travailler avec les industriels, c'est vraiment dans notre ADN. Mmh. Je sais pas, tous les grands industriels aujourd'hui, y compris nos champions dans les télécoms, aujourd'hui, à un moment ou à un autre, ils ont bénéficié du savoir-faire du CNES. Donc, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils viennent du CNES, mais enfin, il y a vraiment des liens extrêmement forts, et travailler avec l'industrie, c'est tout le temps. Maintenant, effectivement, il faut travailler peut-être différemment. Pourquoi ? Parce que en face de nous, on a des acteurs qui sont petits, qui sont fragiles aussi, qui prennent des risques, mais qui ont aussi des probabilités d'échec qui sont parfois plus élevées. Ouais. Et donc ça veut dire que ça nous questionne vraiment sur notre manière de travailler. Et moi, je crois profondément qu'en fait, ce dont elles ont besoin, les startups, aujourd'hui, enfin, j'en ai reçu beaucoup là, au cours des premières semaines de mon mandat, c'est qu'elles ont vraiment envie aujourd'hui de travailler avec nous, et elles ont envie de travailler avec nous, non pas pour avoir de la subvention, non pas pour qu'on vienne les aider, mais elles ont envie de nous aider, et elles ont envie de nous aider à travers des contrats. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'il faut qu'on développe. On en a déjà, mais on a vraiment, je pense, de très grandes marges encore devant nous. Alors, ça, en fait, on est sur toute la chaîne. Hein, ça veut dire qu'on va, pour ainsi dire, de l'évangélisation précoce des utilisateurs de données, par exemple, à un moment donné, de l'idéation, des hackathons. On est sur toute cette chaîne.
Une chaîne d'innovation, feuille de route du nouveau président du CNES, feuille de route de la nouvelle directrice générale d'Engie, Catherine McGregor. Elle veut faire entrer Engie, là aussi, dans la cour des grands, mais la cour des grands des renouvelables.
Nous allons accélérer nos développements dans les énergies renouvelables de manière très agressive, très volontaire, en se positionnant et en construisant sur notre position qui est déjà très forte dans les renouvelables. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le besoin de croissance dans les renouvelables est absolument massif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de projets va être très important. Engie, aujourd'hui, a développé 31 gigawatts, donc c'est beaucoup. 31 gigawatts, c'est à peu près l'équivalent de 31 réacteurs nucléaires quand même, hein, donc c'est beaucoup.
Mais quand on vous compare à vos concurrents, c'est pas beaucoup.
Alors nous sommes les premiers dans l'éolien et dans le solaire en France, en termes de capacité installée, hein, il faut le savoir.
Devant Total ?
Devant Total, dans l'éolien et dans le solaire, absolument. Nous allons jouer pleinement notre rôle d'industriel, mais c'est vrai que je pense que dernièrement, il y a eu aussi également une approche très financière que je voudrais équilibrer en fait, en ayant une approche un peu plus industrielle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire se concentrer sur les leviers opérationnels.
C'est la fin de cette émission, c'est la fin de La France à tout pour réussir, ce condensé d'économie positive que vous retrouvez chaque week-end sur BFM Business, également sur le site de BFM Business. Bon week-end à notre écoute. Et vous retrouvez dès la semaine prochaine, Jérôme Tichit à cette place.
BFM Business, La France à tout pour réussir.